Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.
Les attentats de janvier dernier ont replacé au centre des débats les questions touchant à la liberté d'expression, la laïcité, les religions, les phénomènes de radicalisation, autant de sujets sur lesquels les chercheurs peuvent apporter leur expertise et à qui CNRS Le Journal donne la parole dans différentes émissions. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la laïcité. La laïcité qui n'a jamais autant été évoquée dans les médias, dans les débats politiques et à l'école, où les cours de morale citoyenne reviennent en force. Il en sera certainement question également à l'occasion des actions en milieu scolaire que le gouvernement entend mettre en place avec la réserve citoyenne composée de citoyens bénévoles. La laïcité, dont la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État est la référence, est inscrite dans le préambule de la Constitution de 1958. François Hollande, alors candidat à la présidence de la République, a promis de l'inscrire dans la Constitution. Nous l'avons vu dans l'interview que Philippe Portier a récemment donnée au CNRS Le Journal, la laïcité est différemment comprise selon les sensibilités. Alors, avec nous pour en parler aujourd'hui, Charles Coutel qui est professeur émérite de l'Université d'Artois, qui est vice-président du comité Laïcité République et qui est fin analyste des causes de la crise que traverse la pensée républicaine et notamment le principe de laïcité. Patrick Veil, bonjour. Patrick Veil est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Il est notamment l'auteur des politiques de la laïcité au XXe siècle, édité au PUF en 2007. Et puis Patrick Veil a été membre du Haut Conseil à l'intégration de 1996 à 2002, qui était avant l'Observatoire de la laïcité. Et il a également participé à la commission Stasi, chargée en 2003 de réévaluer l'application du principe de laïcité dans la République. Alors, je vous propose de commencer en revenant aux fondamentaux. Et Patrick Veil, pouvez-vous nous donner une définition de la laïcité ?
C'est une question intéressante parce que vous venez de dire dans votre introduction, en parlant de Philippe Portier, il y a plusieurs approches de la laïcité, mais en fait, il y a quand même un droit de la laïcité qui organise les rapports entre les citoyens français, les cultes et l'État. Et le droit est très important, il doit être distingué des croyances sociales. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, vous avez le droit au blasphème, vous avez le droit de brûler le Coran, vous avez le droit de brûler la Bible. Ça, c'est constitutionnel, c'est légal. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous pouvez oublier d'être... Vous ne pouvez pas être candidat aux élections parce que l'athée est considéré comme quelqu'un dont il faut se méfier, en qui on ne peut pas faire confiance. Eh bien, je dirais que nous avons un droit de du statut de la religion qui est très proche, enfin qui est proche du droit américain parce que, comme les Américains, nous n'avons pas d'église établie. Alors que, par exemple, en Europe, il y a beaucoup d'États, l'Angleterre, les pays du Nord. On pourrait même dire que l'Allemagne, qui fait que chacun paye un impôt pour des églises officielles, il y a des églises établies, eh bien nous n'avons pas d'église établie. Et donc chez nous, il y a trois principes fondamentaux en droit. Le premier des principes, qui est vraiment le premier dans la loi de 1905, c'est la liberté de conscience. Le second principe, c'est la séparation de l'État et des églises. Et je le donne dans l'ordre, dans l'ordre d'importance. Et le troisième principe, c'est le respect de toutes les options spirituelles, y compris les croyances religieuses. Voilà, donc c'est ces trois principes-là qui ensuite doivent être organisés. Et donc, par exemple, je vais rajouter quelque chose, nous organisons l'espace à quatre dimensions. Vous avez l'espace privé chez vous. Si vous voulez que les gens enlèvent leurs chaussures en entrant chez vous, si c'est votre règle, ceux qui n'enlèvent pas leurs chaussures n'entrent pas chez vous. Vous faites la loi chez vous. Bon. Il y a l'espace du sacré. Dans une église, on respecte la loi de l'église. Et puis, vous avez l'espace de l'État, l'espace de la République qui est neutre. Et puis vous avez ce qu'on appelle le reste, c'est l'espace public, où là, il y a une grande liberté d'expression des différentes options, de vos options personnelles.
Charles Coutel, est-ce que vous partagez cette définition ?
Oui, d'abord, bonjour.
Bonjour
à tous. Oui, et je la commente et éventuellement la complète, mais tout ce qui monte converge, nous retrouverons cette apologie du droit. En tant que philosophe du droit, cela me semble évident, sauf que j'ajouterais, et qu'en pensons-nous, une définition peut-être plus ample, au sens où je dirais volontiers de la laïcité quelle est la coexistence rationnelle et pacifique des libertés. Mais liberté doit s'entendre dans le premier sens juridique, rappelé par mon collègue, mais aussi un sens éthique. Une liberté qui vise à améliorer l'état du monde, et aussi un sens politique, au sens où l'on dit ordre public garanti par la laïcité. Ce qui explique le fait que je compliquerais, donc, et c'est un débat, la laïcité pour moi est donc un principe à appliquer, un principe juridique, une valeur à transmettre, sinon à chérir, à aimer, au sens de Montesquieu, ensuite une volonté politique à affirmer, notamment contre les communautarismes, mais ce qui vient aujourd'hui compliquer ces instances qui s'articulent, c'est une longue histoire, un héritage que certains n'interprètent pas de la même façon. Je commenterai juste cela en disant que j'ai été, lors de la grande manifestation, totalement impressionné par une pancarte toute simple, « Avant toute religion, l'humanité ». Eh bien, cela me va complètement. Cela me va complètement, c'est simple, parce que... Et c'est inclus dans un certain nombre d'attendus de Condorcet, peut-être pouvons-nous en reparler. Ceux qui désirent pousser la morale plus loin vers la religion ont d'abord à se mettre d'accord sur des principes moraux humanistes préalables.
Alors, comme je sais que justement, et c'est l'objet de ce débat, les conceptions de la laïcité diffèrent, je vais compliquer en vous soumettant les trois grands courants que Philippe Portier donnait à la laïcité dans une interview qu'il a accordée au CNRS Le Journal en parlant de l'histoire de la laïcité. Donc Philippe Portier, qui, comme vous le savez, est directeur du groupe Société, Religion et Laïcité à l'École pratique des hautes études, il estime qu'aujourd'hui, et on le sait tous, le mot laïcité est polysémique et recouvre donc ces trois grandes conceptions qui sont, d'une part, une conception plutôt différentialiste qui est tentée d'accorder des droits spécifiques à chaque communauté, qui est portée par le think tank Terra Nova ou des sociologues, des confrères à vous comme Michel Vivorca. Il parle en second lieu d'une laïcité classique incarnée par la Fédération nationale de la libre pensée et dont le principe est de ne pas intervenir dans le champ des religions. Enfin, troisième catégorie, il parle d'une laïcité contrôleuse qui a aujourd'hui le vent en poupe. Cette dernière, dit-il, entend contenir la religion dans la sphère privée. Alors, que pensez-vous de cette classification, Charles Coutel ?
Oui, très brièvement, pour qu'il y ait débat entre nous. Je pense que Philippe Portier, qui est un ami, est tenté par, j'allais dire, les fascinations un peu réductrices de la taxinomie. Ça, j'ai essayé de dire, et qu'en pensez-vous, que c'est un principe, c'est une valeur, c'est une longue histoire héritée et c'est une volonté. Donc les trois catégories peuvent aider à classer, à comprendre. J'émettrai une petite réserve factuelle sur la Fédération nationale de la libre pensée jugée classique. Je ne suis pas convaincu. Il faudrait d'ailleurs demander à la direction de la libre pensée. Elle est libre. Alors là où j'ai une petite réserve philosophique, c'est contrôleuse. Dans la tradition philosophique républicaine, quand on dit que le citoyen contrôle, il y a une espèce de grandeur du contrôle, puisque c'est ce qui permet régulièrement aux citoyens de veiller à ce que la loi soit appliquée. Donc, or, je crois que chez Philippe Portier, que j'appelle Philippe, prend le contrôle en mauvaise part. Je prends l'idée de contrôle, bien compris, en bonne part. Donc, on peut ne pas être d'accord sur cette... Mais Philippe Portier a mille fois raison de mettre les pieds dans le plat et de dire qu'à travers la défense de la laïcité, nous avons souvent trop de postures et pas assez de réflexion.
Patrick Weil, je pense que vous avez aussi votre mot à dire.
Oui, je ne suis pas très convaincu par cette classification. Je pense que là aussi, je raisonne en regardant comment la jurisprudence fonctionne, comment le législateur fonctionne. Je crois que vraiment le principe le plus important, c'est la liberté de conscience. Et pour assurer la liberté de conscience, parfois il faut contrôler, parfois il faut libérer, parfois il faut faire autre chose. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui doit guider l'action. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une discussion actuellement sur est-ce qu'on peut autoriser des mères de famille à accompagner des enfants dans des sorties scolaires avec un voile sur la tête. Bon, moi j'ai fait partie de la commission Stasi. Bon, je sais bien comment on a raisonné. On a distingué vraiment les mineurs qui n'ont pas de moyens de se défendre, s'ils font l'objet de pression, etc., des adultes qui ont quand même les moyens plus aisés d'aller en justice. Bon. Et le Conseil d'État a été amené à décider sur cette... Puis il y a eu du coup une circulaire qui en a... Et je pense que c'est tout à fait bien fait. C'est-à-dire que là, la femme qui porte le voile, elle a le droit. La loi, le voile n'est pas interdit, sauf dans certains lieux. Mais si ça devient un moyen de pression, là, on peut l'interdire. Oui. Voilà. Donc si vous voulez, c'est du cas par cas. Parce que si vous dites une chose, si vous dites c'est interdit absolument, oui, oui, alors là, ça limite la liberté individuelle. Mais si vous dites c'est libre, alors que ça peut parfois devenir un moyen de pression... Vous vous empêchez d'intervenir quand il y a une volonté de faire pression sur d'autres. C'est la liberté de conscience qui est le principe. Et ensuite, certaines fois, c'est la liberté, dès qu'on peut. Mais quand c'est nécessaire, on met un holà et on dit, bah là, on arrête.
Alors,
on met
du contrôle. J'ai un petit commentaire, mais qui va à la fois... l'harmonie n'est pas l'unisson, ça s'appelle un débat. Je crois que ma collègue et amie Catherine Kinsler a une proposition à faire, qui est une proposition intelligente. C'est de dire, pourquoi ne porterait-elle pas, je ne dis pas maman, moi, parce que l'école n'est pas une crèche. Je dirais donc, pourquoi ces accompagnatrices ne porteraient-elles pas tout simplement un signe distinctif de laïcité qui permettrait de régler un peu comme les professeurs de droit dans les facultés portaient, ou porte parfois encore, une robe qui permet de neutraliser cette question des signes distinctifs. Donc, des signes distinctifs de laïcité, c'est-à-dire aucune distinction, puisque nous sommes dans l'espace humaniste, nous sommes dans un espace public.
Non, je ne suis pas d'accord
Patrick
avec vous,
Veil.
Parce que une femme a le droit de croire qu'elle doit porter le voile. Si elle le fait librement, c'est son choix. Et on ne doit pas intervenir dans les consciences. Elle ne dérange personne. Si elle était salariée de l'État, la question ne se poserait pas. Alors là, on peut imposer des blouses, etc., si demain... Mais ce n'est pas une salariée, c'est quelqu'un qui accompagne un enfant.
Tout à fait d'accord, chers collègues. Je renvoie simplement aux pages que Lydia Guirous vient de consacrer dans un livre que j'ai trouvé très, très bien structuré. En tout cas, un témoignage qui permet donc de ne pas être dans les principes, mais dans les témoignages, sur l'idée que bien souvent, trop souvent, un certain nombre de signes que nous concevons comme permettant d'exprimer des convictions sont en fin de compte des signes de soumission. Et là, c'est quelque chose au moins qu'on peut poser comme problème, non pas comme en revendiquant cela comme je ne sais quel oriflamme, je ne sais quel slogan. Un débat entre gens de bonne compagnie neutralise toutes ces réductions.
On a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter.
Allez-y.
Bien sûr, les coordonnées du livre dont vous avez parlé, on les retrouve sur notre site, le journal de CNRS.fr, avec toutes les coordonnées. Patrick Veil, vous avez été membre du Haut Conseil à l'intégration, lequel, plus tard, a été remplacé par l'Observatoire de la laïcité, aujourd'hui présidé par Jean-Louis Bianco. Alors, quel rôle pensez-vous que ces institutions doivent tenir ?
Ce n'est pas les mêmes institutions. L'intégration, ce n'est pas la laïcité. L'intégration, moi j'ai fait partie de ce Haut Conseil et on a considéré à un moment, sous la présidence de Simone Veil, qu'on ne servait plus à rien, qu'il fallait se dissoudre. On a mis longtemps à suivre notre conseil, puisque c'était en 98 que nous avons souhaité être dissous et être remplacé par une instance de lutte contre les discriminations. J'insiste sur ce point parce que c'est Durkheim qui dit que, le sentiment d'appartenance à une culture distincte de la nation peut venir de soi ou peut venir d'une contrainte. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas votre épanouissement sur le marché du travail, selon vos compétences, vos aptitudes, vous vous réfugiez. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui chez nous qu'un certain nombre de nos compatriotes qui subissent certaines discriminations peuvent trouver, peuvent peut-être trouver dans la religion un refuge. Donc la discrimination, c'est un des sujets qui peut concerner la laïcité. Maintenant, le haut conseil de M. Bianco, moi je lui conseillerais une chose. L'observatoire de M. Bianco, je lui conseillerais une chose. J'ai été frappé après les horribles tueries de janvier que lorsque des enseignants étaient confrontés à des questions en classe, ils n'avaient pas les instruments pour répondre. Et on se demande à quoi servent toutes ces instances et tous ces ministères. Et si, quand des enfants posent des questions sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, il n'y a pas d'instrument pour répondre. Et du coup, mon association, Bibliothèque sans frontières, je m'excuse de faire de la publicité, on a décidé de faire des MOOC, enfin des petites vidéos pour expliquer.
Alors MOOC, je crois que c'est...
Massive,
je voilà, pense. Voilà, allez-y.
Des chaussures.
Des cours en direct, quoi.
Ouais, des petits cours, je trouve ça terrible, quoi.
Oui, vous savez.
Que la laïcité, c'est des paroles, des discours. Et puis, dès qu'un prof se dit, mais alors, je fais quoi? Qu'est-ce que je dis? Il n'y a rien. Et ça, je trouve que c'est une faillite.
Oui, je pense, chers collègues, que...
En tout cas, ma question, je tiens à ce que la question... Faut-il des institutions de cette nature ou faut-il des institutions? Et ceux qui l'incarnent aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de ce que devrait faire l'institution.
M. Bianco est très bien, mais je dis que je suis frappé du fait que depuis qu'on parle, depuis 1900, il y a eu 25 ans qu'on discute, et puis que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas pensé qu'il fallait faire des petits instruments qui soient utiles pour que les profs puissent répondre à des questions.
Alors, je vois que Charles Coutel a des choses à dire.
Je commente et j'accompagne. Nous sommes dans une période où M. Bianco continue à déployer sa logique du déni. Il n'y aurait pas de problème de laïcité en France, je crois que c'est du déni. Et nous sommes dans un problème, dans un moment politique et philosophique très intéressant, qui consiste à voir un ministère vouloir transmettre des valeurs, comme on dit, et dans une institution, mon collègue peut-être sous-entendait cela, dans une institution qui depuis des années occulte la question de la formation à la citoyenneté, enjolivée, réduite à des bouts de séquences sur l'apprentissage de la consommation, le code de la route, tout ça étant complètement intéressant, mais hors l'école, alors que pour moi, la formation du citoyen commence par la qualité de la langue développée par le maître, et il y a un tel hiatus entre la fuite en avant ministérielle officielle et le désarroi des professeurs à qui on a dénié l'accès à toute formation. Il faut quand même que vous sachiez, qu'en pensez-vous, confirmons, que dans certaines écoles du professorat, on ne peut consacrer que deux heures dans toute la formation. Si on est amené à penser dans ce débat, à proposer quelques idées ou avancer quelques propositions, j'irai bien sûr dans ce sens-là. La meilleure façon d'intégrer dans la République, sinon dans l'humanité, c'est de permettre à chacun de sortir, mais je serai très bref, de ce que j'appelle, faute de mieux, le paradoxe de l'ignorant. Moins j'ai de mots à ma disposition, moins je m'en rends compte. Et quand j'entends parler de Bibliothèque pour tous ou le nom de votre association...
Bibliothèque sans frontières.
Évidemment, sans frontières. Là, je crois que...
Alors, il y a un vrai sujet qui est effectivement, que peut-on faire pour que, au même titre qu'à la Révolution, on a eu cette nécessité que la déséducation des jeunes soit prise par autre chose que par le clergé. C'est important de donner l'éducation. On a beaucoup de choses à se dire. Juste un petit détail, je crois que c'est de l'Observatoire de la laïcité qui a été décidé la journée de la laïcité. Juste un mot, qu'est-ce que vous en pensez, cette journée du 9 décembre consacrée à la laïcité?
Mais je trouve que c'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que la laïcité, c'est tous les jours.
Voilà.
C'est pas. Quand je vois des titres de la presse, vous voyez, j'ai réagi samedi, je vous le dis franchement, il y avait musulmans, la jeune génération. C'était pas le musulman, c'était l'UOIF. Et alors, c'est terrible. D'abord, vous êtes musulman, mais il y a des gens, ils ont un lien avec l'islam, ils sont totalement athées. D'autres, ils sont très croyants. Et alors, juifs et musulmans et machin. Il faut apprendre, ces journalistes doivent apprendre ça, et c'est tous les jours que ça se pratique. Le choix des mots par rapport à la façon dont on parle des gens. Voilà, donc, c'est pas une journée par an. C'est tous les jours.
Alors, par ailleurs...
Pareil pour renouer, la journée de la femme, donc.
Je suis d'accord, semble, bien sûr, oui, pareil pour la journée de la femme.
Oui, la fête des mères, invention de Pétain. Il me semble que l'idée, la bonne idée de départ, qui est de commémorer, de retrouver le souffle des grands récits qui ont pu fonder la République dans son histoire, parfois douloureuse, n'est pas une mauvaise chose en
soi.
Je
suis d'accord.
Mais la commémoration, ben, pensons à tout ce qu'en dit justement, à mon avis, Auguste Comte, c'est l'occasion de revisiter les grands morts, mais les grands morts, c'est-à-dire ceux qui sont porteurs des récits dont ils ont eu en quelque sorte le sens et dont ils ont eu à commenter le sens et la portée.
Alors, on parlait de ces institutions nécessaires ou pas à maintenir, à faire vivre la laïcité. Et puis, il y a votre cas, Charles Coutel, puisque vous êtes membre du comité Laïcité République, qui, si je ne me trompe pas, a été créé il y a 20 ans, et c'était à l'occasion de l'affaire du voile de Creil. Donc, c'était une association qu'on pourrait qualifier peut-être de militante.
Oui.
Alors, pourquoi et contre qui faut-il donc se battre pour défendre la laïcité?
Pour défendre la laïcité, il faut d'abord se méfier de soi-même. De ce que Peggy appelle en 1913, dans l'argent, l'orléanisme. Il a deux têtes de Turc dans cette formulation de 1913. Il dit « Ce dont nous souffrons, c'est de l'orléanisme de la religion. » Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, peut-être demain parlerez-vous de cela. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'orléanisme de la République. Alors, je crois que c'est cette idée que ben, c'est d'abord l'effondrement sur soi de la pensée républicaine qui, ben, c'est la rançon du succès. Un peu comme la longueur, le succès de l'Église catholique explique la montée d'une sorte d'oubli de soi qu'on pourrait appeler le marcionisme. Eh bien, tout simplement, il me semble que la rançon du succès fait que régulièrement, on a besoin de piqûres de rappel. Rappel, pas au sens médical, mais au sens intellectuel. C'est ce qui se passe régulièrement lorsque la République subit de graves non seulement déboires électoraux, comme ce fut le cas avec la fin de la Seconde République, mais surtout l'idée qu'il faudrait trouver un moyen, et là l'école, mon collègue, je pense, serait d'accord, c'est trouver un moyen de déclencher une prise de conscience pour réinstituer ce que Vincent Duclerc appelle retrouver l'importance de la nature réflexive de la République. Mais la réflexion n'est pas ici de l'incantation. C'est tous les jours que les mots, M-O-T-S, de la République doivent être revisités, critiqués. Peggy, je termine là-dessus, mon témoignage sur laïcité et République, Peggy dit bien que ben, on ne suit que celui qui marche. Ça veut dire que la laïcité, ce n'est pas un discours parce qu'on a beaucoup souffert. Hein? D'ailleurs, l'idée de vivre ensemble, qui en est le commentaire, à mon avis, grégaire et confusionniste, hein? Moi, je pense que si on mettait aimé ensemble la République, ce serait déjà mieux. Et même si on disait vouloir vivre ensemble, ce serait déjà mieux, il y aurait de la volonté. Mais vivre ensemble, ben, ça peut être côte à côte, et on ne pourrait pas faire mieux le jeu des communautarismes.
Alors, à ce fameux comité Laïcité République, il y a eu un président de jury, c'était en 2012, et il s'appelait Charbe. On va l'écouter.
Je donne donc la parole au président du jury 2012, Charbe.
C'est dur. C'est très dur parce que vous avez dit l'essentiel. Et je suis content que vous ayez cité l'Église catholique. Non pas que j'ai une rage particulière contre l'Église catholique, mais en ce moment, l'actualité nous rappelle que les méchants sont les islamistes. Alors effectivement, ils sont méchants. Mais je voudrais rappeler que derrière, en embuscade, se trouvent des gens beaucoup plus nombreux, qui ont beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, et qui n'attendent qu'une chose, c'est que les musulmans fassent le sale travail, c'est-à-dire écraser la laïcité pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche. Et je voudrais dire aussi que, suite à tous ces événements qui ont agité l'actualité, quelque chose m'a beaucoup choqué. J'ai l'impression, enfin je le pense et j'en suis convaincu, nous sommes... la République, nous sommes le nombre, nous sommes la force, nous sommes la loi, et beaucoup l'ont oublié, et beaucoup s'excusent d'être les représentants de la démocratie en France, beaucoup s'excusent d'avoir raison, beaucoup s'excusent de respecter la loi, et beaucoup trop de gens sont timides face à la laïcité, beaucoup trop de gens oublient que sans la laïcité, on ne serait peut-être pas là à discuter tranquillement, et j'ai moins peur des extrémistes religieux
que des laïcs qui se taisent. Donc, laïcs, réveillez-vous, je sais que vous vous êtes réveillés. Et j'attends que beaucoup d'autres se rappellent que ce qu'ils doivent à la laïcité, ce qu'ils doivent à la République. Merci.
Patrick Veil, est-ce que vous avez certainement une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
C'est très bouleversant de l'entendre dire des choses très sensées. Très sensé et très juste. Moi, j'ai été à la commission Stasi. J'ai senti ce qu'il dit, c'est-à-dire que, vous voyez, j'ai aussi présidé, j'ai aussi dirigé une mission pour le gouvernement de Jospin sur l'immigration. Et l'immigration, c'est quand même un sujet très difficile et très chaud. Et que j'étais seul, hein, j'étais le chef de ma mission, c'est moi qui portais l'ensemble de mon rapport. À la commission Stasi, nous étions 20. Donc on partageait la responsabilité. Mais j'ai eu l'impression, franchement, à la commission Stasi, d'être assis sur une bombe atomique. C'est-à-dire que si on touche à la loi 1905, qui est quand même un joyau, qui a été fait vraiment, c'est de l'orfèvrerie. Si on commence à dire qu'il faut toucher à cette loi parce que je ne sais pas trop quoi, on ouvre la guerre civile dans le pays. Parce qu'on ne s'arrêtera plus jamais, personne. Je veux dire, la loi 1905, elle a cette force des grands textes de loi, qu'elle unit tout le monde, même si on n'est pas d'accord sur son interprétation. Et l'interprétation, on va devant les tribunaux pour en juger. Et donc c'est ça qui fait la paix civile. C'est qu'on s'engueule, mais on va devant les tribunaux pour traiter de nos différends.
Je suis en total accord. Merci. En total accord avec cette réaction. J'ajouterai, comme mon collègue, de l'émotion, parce que entendre par le biais des ondes républicaines un mort venir commémorer ce qu'est implicitement la loi de 1905 et nous appeler au courage par-delà la mort, et là, il ne pouvait pas le savoir en 2012, bien évidemment, bien qu'il était déjà menacé, comme d'ailleurs un de nos collègues, Samuel Mailleul, qui revient de recevoir sa 23e menace de mort, parce qu'il osait dénoncer des scandales. Oui, mais alors comment expliquer l'inculture au plus haut niveau? Puisque le président de la République, il y a quelques jours, a osé dire « La République reconnaît tous les cultes ». C'est un contresens complet, c'est pathétique et ça renvoie à cette ignorance d'État, à cette inculture politique d'État, alors qu'elle ne reconnaît la République ni ne subventionne aucun culte. En tant que directeur d'un institut d'études des faits religieux, je commente en disant « Donc, elle les connaît tous », ce qui renvoie à la nécessité par les livres et les bibliothèques transfrontalières ou
sans frontières.
Sans frontières, je veux simplement dire que préserver ce joyau, je partage complètement ce jugement, de la loi 1905, ça consiste aussi à se souvenir qu'elle présuppose une culture humaniste partagée dont la connaissance non confessionnelle des faits religieux fait évidemment partie.
Patrick Veil.
Ça suppose beaucoup de choses, préserver la loi 1905. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important. C'est que, enfin je crois très important, quand la loi 1905 est adoptée, elle est officiellement applicable à l'Algérie. Mais elle ne s'appliquera jamais à l'Algérie. Parce qu'on la suspendra son application. Et donc, l'Algérie est française, je vous le rappelle. Elle a été intégrée en 1848 dans la République française. Et les Algériens ne sont pas soumis à la loi 1905. Donc, les musulmans d'Algérie sont soumis à la charia et au Coran. C'est le gouverneur de l'Algérie qui nomme les imams, comme il nomme d'ailleurs les évêques et les rabbins. Bon. Et quand vous avez ensuite ces compatriotes qui arrivent en métropole et à qui on dit « Attendez, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas ce que c'est que la laïcité. » Mais ils disent « Mais attendez, mais moi j'étais en France avant. » Alors c'était pas la France, l'Algérie? Ben si, c'était la France. Ah oui, mais alors, vous comprenez. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand vous dites vous-même que M. Hollande ne connaît pas bien les règles. Comment voulez-vous? Faisons preuve de générosité. Mettons-nous à la place de ces compatriotes qu'on a fait venir, à qui on appliquait des règles différentes, et à qui on dit, mais attendez, vous n'avez rien compris, vous ne pouvez pas être... Attention, oui. Ça on ne le sait pas. Les métropolitains, ils ne le savent pas. Qu'il y avait des règles différentes qui s'appliquaient.
Et que dire de la Guyane? Que dire
oui,
des Comores?
Oui, mais disons que la voilà, Guyane, il reste en Guyane.
Alors, de Mayotte et de...
Oui,
voilà,
les Guyanais
le
restent en Guyane.
Là où s'exerce
oui,
le Concorde.
Alors que vous avez raison.
Et donc, il y a eu une immigration d'Algérie. Et des gens disent, attendez, vous ne savez pas ce que c'est que la laïcité, etc. Comment Mais c'était super compliqué, surtout qu'on n'a pas fait venir, les entreprises françaises n'ont pas fait venir les gens qui avaient des diplômes de troisième cycle. Mmh. Donc, si vous voulez, oui. c'est ça qu'il faut aussi qu'on se mette à se comprendre et à comprendre d'où on vient, parce que même le président de la République fait des erreurs, donc on peut en admettre chez d'autres.
Tout à fait. Le grand Condorcet dit que faisons en permanence l'histoire de nos erreurs à partir de notre ignorance première, afin de dresser, dit-il, le tableau de nos espérances. Ce n'est pas des phrases, c'est l'idée qu'on ne progresse que si on fait l'histoire de nos renoncements. Mais réduire la République à n'être qu'une ancienne puissance colonialiste me semble aussi une réduction. Ce n'est pas du tout ce que vous faites, mais il y a eu une application. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on applique souvent au passé colonial uniquement l'ombre, en oubliant qu'effectivement, il y a eu aussi une
des
puissance
lumières.
Si je peux dire un mot, on n'applique même pas les lumières. Je vais vous raconter une histoire, enfin, c'est très important. Vous savez qu'après le vote de la loi Taubira, qui reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité, il y a eu une pétition de 25 collègues historiens, Liberté pour l'Histoire, parce qu'un de nos collègues avait été mis en cause devant un tribunal.
Je me souviens. Bon.
Et c'est inadmissible, effectivement, on doit tous pouvoir écrire ce qu'on veut. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans cette pétition, on disait « mais le crime contre l'humanité, c'est un concept du XXe siècle, alors on ne l'applique pas au l'esclavage, qui était quelque chose qui s'est terminé au XIXe siècle ». Mais sauf que c'est faux, parce que le droit français, le Parlement, a décidé en 1794 et en 1848 que l'esclavage étant un crime contre l'humanité, on le punissait par la déchéance de nationalité.
Ouais.
Et donc la France, et vous voyez, cet oubli qu'on a, de notre propre histoire, parce qu'elle vient,
très juste, oui.
Elle s'applique à des Français d'outre-mer, alors que c'est quelque chose qui nous valorise tous.
Bien sûr.
Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut faire une place dans notre histoire à tous nos compatriotes.
Bien sûr. Dans leur richesse,
dans leur communauté.
Tout à fait.
Je voudrais qu'on reste sur 1905 parce que c'est un vrai sujet. Alors, cette loi de 1905, vous en connaissez l'article 2, vous le disiez tout à l'heure, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Hein. Mmh. Eh bien, vous avez entendu récemment le président du Conseil français du culte musulman qui appelle au doublement du nombre de mosquées. Qu'est-ce qu'on fait ?
Écoutez, dans l'absolu, si cela permet des financements transparents et empêche les services secrets d'un certain nombre de puissances de chercher à manipuler les diasporas de leurs pays respectifs, je trouve que c'est une bonne chose. Le respect de l'exercice d'un culte est, à mon avis, garanti par l'esprit de la loi de 1905. Il y a des querelles un petit peu frontalières entre amis de la laïcité sur l'expression dans l'espace dit public. Mais l'idée qu'on a besoin de créer de lieux de culte adaptés et avec des financements transparents, moi, me semble une bonne chose. Mais se pose à un moment donné la question de l'extériorisation. Par exemple, le muezzin à 5 heures du matin, ce n'est pas trop dans nos perspectives, mais pas plus ni moins d'ailleurs que les cloches le dimanche matin. Il y a donc là un problème d'accueil de l'expression de ces cultes. Mais l'idée d'avoir des lieux et pas des parkings ou la voie publique pour s'exprimer,
voilà,
me semble.
Et qui paye ?
Alors, la question, c'est qu'il existe, par le biais de montages financiers, des solutions que la République a bien évidemment mis en place depuis longtemps.
Alors, Patrick Veil ?
Ben oui, moi je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux que nos compatriotes musulmans croyants puissent pratiquer leur culte dans des lieux dignes qu'il donne un sentiment d'être vraiment partie prenante et respectée dans la République.
Vous ne répondez pas à ma question. Qui paye ?
Mais qui paye d'abord ? Eux peuvent payer. Parce que
les collectes, le denier du culte, les collectes.
Non, mais c'est l'Arabie Saoudite.
Mais non, mais madame, c'est les collectes. Ça peut être les communes. Qui prêtent des terrains.
Avec des montages financiers, s'il y a des centres culturels, etc.
Donc il y a des moyens.
C'est ce que beaucoup dénoncent comme l'entourloupe, l'action culturelle et l'action culturelle.
Non, ce n'est pas une entourloupe.
Je vous provoque un peu, c'est mon métier. Sur ce
glissement culturel, très bien d'ailleurs, à mon avis, analysé par Olivier Roy en 2007, l'instrumentalisation du cultuel par le culturel, ça c'est bien connu maintenant.
On retrouvera les coordonnées de Willy Roy sur le site du CNRS.
À l'intérieur des institutions publiques, comme l'école, l'université, que sais-je, non. les croyants ont droit à l'expression de leur culte dans le contexte théologique, liturgique qu'ils choisiront. Voilà pourquoi la République n'a absolument pas à se mêler de la formation théologique, ce qui ne veut des imams ou autres, mais ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas à renseigner, informer les ministres cultuels des lois de la République. C'est autre chose, une pédagogie de la laïcité, mais sur des terrains neutres, et évidemment pas des instituts eux-mêmes cultuels.
Patrick Veil.
Mais moi, je dirais que je suis de plus en plus optimiste. Moi, je ne pense pas que ce soit qui paye, on est en train de le résoudre, mais aussi qui anime les mosquées. Et je pense qu'il est en train de naître un islam français avec des gens qui ont un peu vadrouillé entre différentes institutions, différents groupes, et qui font leur chemin et qui trouvent leur voie en étant musulmans et en étant français.
Voilà,
et je pense que... Voilà,
un islam français, pas un islam de France.
Un islam français, c'est-à-dire un islam qui se sent bien dans les institutions laïques et dans les institutions républicaines.
Se pose un véritable problème de recherche. Développer un projet, rendez-vous dans 2 ans, pour voir un peu ce que ça donnera, qui porte, avec mon collègue et ami Abdennour Bidar, sur la question de la conscience de soi humaniste au sein de l'islam. Parce qu'on n'a aucune leçon à donner aux croyants. Simplement, la République, elle doit donner les moyens d'instruction, de culture partagée, pour que les convictions personnelles parfois subies deviennent des convictions rationnellement fondées grâce à l'instruction du peuple.
Alors, toujours, parce que cette loi de 1905, on en fête le 110e anniversaire, là, cette année, 2015. Donc là, je sens qu'il y a un accord tacite, mais c'est encore mieux que vous le disiez. On ne touche pas à cette loi. On ne la rénove pas, on ne l'adapte pas, on ne touche pas.
Non, on touche éventuellement le droit social en Alsace-Moselle, qui est pour l'instant un frein à la laïcisation de ces deux départements sous concordat, parce qu'il y a des réticences à l'extension de la loi 1905 en Alsace-Moselle, parce que les avantages sociaux dans un certain nombre de domaines, pour l'instant, freinent. Mais on ne touche surtout pas à ce môle de résistance et de défense de la République qu'est la loi de 1905. Il me semble évident, c'est bien, mais détrompez-moi, un député communiste, Étienne Fajon, qui a penser l'importance de cette loi de 1905 pour penser la laïcisation de la Constitution de 1946.
Oui, enfin, avant que ce soit M. Fajon, Patrick il y a Veil. Eu Jean Jaurès, il y a eu de Pressensé, il y a eu Briand. Non, attendez, laissez-moi finir.
Pardon.
Et puis, il y avait l'approbation des évêques de France contre le Vatican. Donc, c'est une loi de compromis. Voilà. C'est une loi qui a été négociée entre le courant, je dirais, laïcard un peu de la République et l'Église française, l'Église de France. Et ensuite, le Vatican s'est opposé, ce qui a entraîné cette crise qui a duré quand même assez longtemps entre le Vatican et la République. Mais c'est une loi qui a été magnifiquement dessinée. Ce n'était pas une loi combiste, ce n'était pas une loi de combat. Oui, ce n'était pas une loi de combat contre la religion. Et donc, c'est une loi qui permet à chacun, quelles que soient ses options spirituelles, de se sentir bien dans la République, à condition qu'il respecte les options des autres. Donc, je pense que ce qui est formidable, et je vais juste dire ça, c'est que la laïcité française, c'est la liberté individuelle de conscience absolue. Nous ne sommes ni amis de la religion comme les États-Unis, ni ennemis de la religion comme la Chine. Nous sommes neutres.
Voilà.
Chacun a le droit de faire ce qu'il
veut. Il me semble,
et c'est qui fait l'attractivité de notre régime, même si, évidemment, il faut à chaque fois, comme c'est le principe de la liberté individuelle qui est important, il faut à certains moments contrôler, à certains moments libérer, parce que les situations peuvent varier.
Alors Charles Coutel.
J'ai une réaction provocatrice à l'issue d'un entretien que je viens d'avoir avec mon collègue et ami Jean-Claude Milner. Il va plus loin.
Qui est
Jean-Claude Milner, qui a écrit un texte, à mon avis, passionnant en 2002 qui s'appelle « Existe-t-il une vie intellectuelle ?» Alors il dit non, mais c'est par provocation, c'est pour nous appeler à penser, ce que, grâce à vous, chers collègues, nous arrivons à faire. Eh bien, c'est une idée très simple, c'est qu'il doit y avoir, grâce à la laïcité, un moment athée, dit-il, dans ma propre rapport, dans mon propre rapport à la religion. Et c'est ce que... dans la tradition juive, on appelle, j'allais dire, les tables de Noé. Il y a des pages admirables de 1960 du philosophe Lévinas qui dit « L'idée que la révélation, une révélation, et là on a le choix, les révélations supposent, révélées, supposent une humanité raisonnable. » Eh bien c'est à la République, par le biais de l'instruction publique et de la loi de 1905, à mon avis on ne peut pas séparer les deux projets, à l'époque, de constituer cette humanité raisonnable qui ensuite, alors là c'est l'affaire de chacun, si nous considérons qu'il faut aller plus loin pour affirmer encore plus le bien fondé de notre humanité raisonnable et rationnelle, alors développons, que sans fleurs s'épanouissent, développons les différentes convictions. Par exemple, le Premier ministre, quand il dit que la France doit énormément à la pensée juive, il a raison. Ce jeu de l'étude, de la polémique et de la célébration d'un Dieu quand on y croit, c'est quelque chose de très intéressant, de très fondamental. Je note d'ailleurs que l'effondrement du niveau intellectuel de la République, des élites républicaines qui reconnaissent les religions, alors que c'est exactement l'inverse que ce que dit la loi 1905, cet effondrement du niveau intellectuel est strictement contemporain de la montée de l'antisémitisme dans notre pays.
Alors justement, Patrick Veil, non, et non. Ensuite une dernière question vous mettre en...
Je pense que ce qui fait la possibilité de la liberté, c'est d'être confronté effectivement à différentes situations. Je vous prends un exemple. Aux États-Unis, vous pouvez être né catholique et vivre dans la catholicité toute votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous marier avec un prêtre. Vous pouvez... En France, ce n'est pas possible. Vous devez à un moment sortir, même si vous pouvez aller à l'école catholique, vous pouvez, puisqu'il y a des contrats, voilà, il y a la loi de Bray, etc. Si vous voulez aller vous marier, vous devez commencer par aller à la mairie. Et donc là, à la mairie, vous allez être soumis à la cérémonie commune, laïque,
Et républicaine.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été très choqué. Vous voyez, je suis très embarrassé de voir que ceux qui se battent pour préserver la laïcité sont en train d'emmerder, excusez-moi l'expression, des nounous portant le voile et ne sont pas du tout gênés d'entendre à la radio dire que M. Koulibaly était marié avec Mme Boumediene alors qu'il ne l'était pas, selon la loi de 1792, et qu'ils ne l'étaient que selon leur culte, et donc en violation fondamentale avec un des principes très importants de la laïcité. Et donc je dirais que, vous voyez, si on veut avoir des corrections, on dit la loi 1905, faut-il la changer? Non, mais la loi 1792, il faut l'appliquer. Bon. Et donc, vous voyez, le fait d'être confronté à différents espaces, c'est ça qui vous permet de réfléchir, et du coup de vous faire votre propre conscience et de votre propre
délibération.
Absolument.
Voilà, alors pour terminer ce très intéressant débat, une question totalement d'actualité. Aujourd'hui, il semble que ce soit le Front National, c'est lui qui prétend s'approprier la laïcité. Comment prenez-vous cette situation? Cette situation est-elle recevable? Que faire? Charles Goudet.
Très brièvement, pour qu'il y ait échange, le Front National pille le trésor de la philosophie républicaine en faisant son marché dans l'ensemble des principes républicains. Il prélève la laïcité, la monte en épingle, mais oublie l'égalité et la liberté en passant. Accessoirement, aussi la solidarité, l'idée épouvantable de préférence nationale qui est tout à fait anti-républicaine. Par ailleurs, l'idée de faire de la laïcité quelque chose qui s'opposerait à une religion et à une seule me semble une imposture. C'est totalement contradictoire avec l'hospitalité, qui, par exemple, de la première révolution, enfin celle de 1789, où il suffisait de déclarer sa volonté d'être citoyen, d'occuper un certain nombre de fonctions, de donner un certain nombre de garanties pour être citoyen.
Patrick Veil.
Je suis d'accord. Je pense que
La laïcité, c'est le respect de toutes les options spirituelles, y compris si on veut être musulman, et on a le droit de l'être. Voilà, il y a pas, c'est l'inverse. Mais vous savez, Monsieur Sarkozy, quand il est allé au Vatican, s'excuser de la loi de 1905 quasiment,
c'est et dire
que,
dire que
le prêtre avait plus de valeur que l'instituteur. Pour moi, c'était quelque chose de terrible, parce que c'est un président de la République qui ne comprend rien à l'histoire.
Ouais.
Et deuxièmement, qui finalement déteste la laïcité, ce qu'il exprimait là, puisqu'il pensait que c'était plus important, que le prêtre était plus important que l'instituteur. Donc, si vous voulez, je pense que nous avons un vrai problème dans la classe politique, d'incompréhension, soit de manipulation, d'un principe fondamental de la République, et donc Madame Le Pen n'est pas laïque en croyant que la laïcité, c'est l'attaque contre des croyants.
Nous sommes d'accord.
À tous deux, une dernière question. S'il n'y avait que deux mesures pour que la laïcité soit respectée en France, quelles seraient-elles ? Patrick Weil, Charles Coutel, qui
Patrick,
parle le premier ?
Écoutez, on se fait des politesses.
C'est très
qui
bien.
Est l'âme de la laïcité, la civilité comme préparant la laïcité, je suis tout à fait d'accord. Séquence émotion. Non, très brièvement, la première mesure, parce qu'elle est poussée par l'urgence, il se passe dans un certain nombre d'écoles du professorat, depuis la mise en place de ces sessions de formation un peu accélérées à la laïcité, de véritables scènes de scandale. Des stagiaires résistent, refusent les modules qu'on leur présente, en traitant les formateurs qui de racistes, qui d'islamophobes, refusant d'aller dans des visites, par exemple, d'un mémorial de la Shoah. Je ne donne pas le lieu, ça me semble tout à fait hors propos. C'est scandaleux. Si les futurs maîtres viennent faire leur marché et mettent en avant leurs convictions personnelles pour juger des formateurs qui sont là parce qu'ils font leur travail, je trouve qu'il faut là vraiment que la puissance publique, si elle ne réagit pas, est une impuissance publique. Et positif, la deuxième mesure, cela consiste à souhaiter ardemment la réussite de l'enseignement moral et civique. J'y ajoute, adossé d'une manière réfléchie, comme d'ailleurs Vincent Duclerc nous y invite, à un enseignement non confessionnel des faits religieux, parce que c'est dans l'esprit de la loi 1905 que de connaître les culte que par ailleurs on ne reconnaît pas. Mais attention, il ne s'agit pas de rentrer dans la théologie. Il s'agit de rendre compte des controverses religieuses parce qu'elles font partie des moments culturels. Par exemple, juste cet exemple pour conclure, la querelle des rites chinois chez Voltaire. C'est un moment fondamental de sa formation intellectuelle. Et une classe de collège, au lieu de lire des vers de Mirliton, pourrait peut-être, par exemple, lire la controverse de Valladolid.
Patrick Weil.
Moi, je proposerais donc deux mesures. La première, c'est une des propositions qui a été faite à l'unanimité de la commission Stasi, qui n'a pas été reprise par le Parlement. C'est la reconnaissance dans notre calendrier d'un jour férié au choix pour des religions non majoritaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, le lundi de Pentecôte, je ne sais pas si vous arrivez à savoir s'il est encore férié ou s'il ne l'est pas.
C'est compliqué, c'est vrai.
C'est assez compliqué. Et il suffirait de dire, vous choisissez entre le lundi de Pentecôte, la journée de la laïcité, celle du Kippour, de l'Aït, etc. Et en début d'année, le salarié dit, je choisis ce jour. Et ça, premièrement, ça marque le respect de la diversité spirituelle dans le pays. Et deuxièmement, ça marque quelque chose qui est important dans notre tradition, c'est le caractère privé de l'option spirituelle. Aujourd'hui, un juif ou un musulman peut se manifester auprès de son employeur pour dire « je suis juif, je suis musulman, je m'arrête tel jour », mais il est obligé de se déclarer juif ou musulman, ce qui n'est pas exactement ce que nous prônons quand on explique ce que c'est que la laïcité. Donc là, il y a quelque chose qu'on avait voulu résoudre comme problème. La deuxième proposition que je fais, c'est qu'effectivement, j'y reviens, qu'on ouvre les bibliothèques dans les écoles, après la fermeture des cours, fin d'après-midi, les week-ends, le soir, parce que la laïcité, c'est quelque chose de libérateur. Si l'on souhaite vraiment que les enfants et les adultes pensent par eux-mêmes, il faut que dans les lieux où on se cultive l'esprit, on puisse y accéder, aux heures où on peut y accéder. Or, les bibliothèques sont ouvertes aux heures où on n'a pas le temps d'y aller. Pour les parents, aux heures de travail et pour les élèves pendant les heures de classe. Bon. Donc c'est complètement absurde. Et je pense que ceux qui n'arrêtent pas d'avoir ce mot là, à la bouche au gouvernement, hein, dans les gouvernements, laïcité, 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 et là on discute de l'ouverture du dimanche, et qu'est-ce qu'on ouvre le dimanche ? Les magasins, mais pas les bibliothèques. Et je trouve ça vraiment extrêmement incohérent par rapport à ce qui s'est passé en janvier.
Merci à tous les deux. On a envie de continuer la conversation,
pour cette invitation.
Mais il faut savoir s'arrêter. Et puis, bien sûr, on peut lire vos ouvrages en se repérant à toutes les indications qui sont sur le site lecnrslejournal.fr. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez la Wikiradio du CNRS, une web radio participative et collaborative.